Loin des yeux, près du cœur.
Une émission des Congolais vivant à l'étranger.
Bonjour Banamama, bonjour Radio Maria. Moi c'est Maman Chantal Kamwanya. J'appelle du Canada, Ottawa, la capitale de la communauté catholique congolaise d'Ottawa-Gatineau.
Bonjour ma radio et shalom à tous les bana mama. Je fais bien maman Valérie Nguélé de l'aumônerie catholique congolaise de Londres. Je voulais juste vous dire God bless Radio Maria.
Allô, bonjour, mon nom c'est Joaquim Benza. J'habite en Espagne, précisément dans la ville de Bilbao. Vraiment, comme le dit le titre de l'émission, loin des yeux, près du cœur. Vraiment, on est vraiment près du cœur en écoutant la Radio Maria.
Écoutez sur Radio Maria, laissez-nous votre message.
Une émission à suivre chaque dimanche sur Radio Maria.
Bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Loin des yeux, près du cœur. Prosper Mbumba, c'est moi qui vous embarque pour les Philippines, en Asie, d'où nous vient le Père Emery Mwako. Père Emery, bonjour.
Bonjour, mon Père.
Vous êtes congolais, prêtre, membre de la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie, CICM en sigle, autrement appelé Congrégation des Pères de Scott. Vous êtes donc missionnaire aux Philippines. Père Emery, qu'est-ce qui justifie votre présence à Kinshasa aujourd'hui?
Pour le moment, je suis revenu pour le processus du renouvellement de mon passeport. Aux Philippines, nous n'avons pas d'ambassade ni de consulat. Alors, il fallait trouver un moyen.
Vous êtes revenu pour renouveler votre passeport. Il y a beaucoup de Congolais aux Philippines. Demandent même une représentation diplomatique, un consulat. Et c'est en tout cas ce que témoigne un article publié par le quotidien La Prospérité le 3 août 2023. Est-ce que vous avez une idée sur ce dossier? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a de l'espoir d'avoir un consulat aux Philippines?
Oui, c'est un souci majeur. Nous espérons qu'un jour, le gouvernement va tenir à sa promesse. Parce que notre chargé, NXCICM, actuellement, c'est Didier Mbombo. Ils ont tenté de contacter le ministère, le gouvernement, et ils nous ont promis. Nous devons les accueillir là-bas pour installer un consulat. Mais jusqu'à présent, la promesse est encore là. Et ils ne nous ont pas encore visités. Mais nous espérons, parce qu'ils nous ont dit, peut-être que ça ne sera pas seulement les Philippines, ça peut être Philippines avec les Myanmar ou avec un autre pays combiné ensemble. Et nous espérons que ça ne sera pas une lettre morte de la part du gouvernement.
Vous êtes Congolais et missionnaire aux Philippines depuis 2014. Parlez-nous de ce cheminement qui vous a conduit de l'Équateur où vous êtes né jusqu'en cette terre d'Asie.
Bien sûr, je suis né à l'Équateur, ce qu'on appelait avant Grand Équateur, maintenant c'est la province de la Mongala, et originaire de Bosso-Modanda, dans le diocèse de Lissala. Et oui, comme tout le monde, je cherchais comment servir le monde, comment servir l'Église et tout. Après tout, j'ai contacté le père de Scott qui était là, et ils m'ont orienté et j'ai fait mon aspirant depuis 2004-2005.
Ça, c'est après avoir fini vos études humanitaires.
Bien sûr, j'enseignais aussi. Okay. J'ai enseigné à l'Institut Macapo. Et c'est de là, comme enseignant dans une école catholique, que la vocation est née. Et puis, ils m'ont aidé. J'ai fait 2 ans d'aspirant, puis je suis venu à Kinshasa pour la philosophie. Et après la philosophie, le noviciat. Et puis, la théologie au Cameroun. J'étais envoyé aux Philippines pour la mission.
Père Emery, la Radio Maria vous reçoit dans cette émission, surtout en tant que chrétien catholique vivant à l'étranger. Dites-nous, comment va la foi catholique dans ces pays d'Asie, les Philippines?
Ah oui, les Philippines, c'est le premier pays catholique d'Asie. Et en termes de population, d'abord, ils sont plus de 120 millions d'habitants. Et puis, les catholiques, nous sommes 85% de la population. Donc, c'est vraiment un pays catholique, si je peux le dire. Et la foi est vivement pratiquée. Et là-bas, la foi se manifeste à travers les dévotions, ils ont des dévotions que ici chez nous, nous n'en avons pas.
Mm-hmm. Par exemple.
Les dévotions mariales. Mm-hmm. Et les dévotions mariales, vous allez voir des processions terribles. Et pas seulement pour Marie, mais vous avez aussi la fête des saints dans la tradition espagnole qui s'appelle fiesta. Mm-hmm. Quand on célèbre, c'est pas trop. Tout le monde célèbre ça. Il y a aussi des pratiques comme les 9 jours intenses de la préparation pour Noël, mm-hmm. qui s'appelle là-bas dans leur tradition Simbangabi, Misa de Gallo, si on peut dire en espagnol. Ce sont des messes de dawn, les messes qui se célèbrent très tôt matin. Et ce sont des messes là où vous allez trouver beaucoup de gens. Et pas une seule messe. Mm-hmm. Je devais dire la troisième, à 3 heures, la première, à 4h30, la deuxième, et puis à 6h ou à 5h30, la troisième. Et ils ont cette pratique-là que chez nous ici, nous n'en avons pas. C'est ce que j'ai trouvé. Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Et les dimanches, comme ça, vous allez voir dans des paroisses, nous avons 8 à 9 messes les dimanches. Mm-hmm. Et c'est un travail qui demande beaucoup pour les prêtres.
C'est donc un pays très catholique, mais il y a aussi d'autres religions à part les catholiques.
Exactement. Ils ont d'autres religions. Et il y a même ce qu'ils appellent des catholiques nationaux qui ont développé une sorte de loyauté envers l'État. Et ils se contentent de leur messe. C'est une petite minorité. Mais il y a aussi une église qu'ils appellent Ecclesiani Christo.
Ecclesiani Christo.
Yeah. Donc, l'église de Jésus, c'est une église aussi forte. Ils envoient déjà des missionnaires aussi dans d'autres pays étrangers. Donc, il y en a, mais c'est une minorité. Ce qui fait la différence, bien qu'il peut y avoir des églises aussi là-bas, ce qui fait la différence est que quand on parle de l'église catholique, on voit l'excellence, on voit la propriété, mm-hmm. on voit le sérieux dans le travail, c'est un modèle pour la société.
Père Emery, vous êtes revenu sur l'Espagne. Vous avez fait allusion.
Ok.
À l'Espagne. C'est quoi cette influence de l'Espagne aux Philippines? Expliquez-nous.
Les Philippines a connu beaucoup de, si je peux appeler, de colonisation avec les Malaisiens dans le passé. Mais l'influence chinoise n'était pas forte à l'époque. Et après tout, ils étaient colonisés pour beaucoup d'années par l'Espagne. Et même le nom Philippines, ça vient du roi Philippe.
Ok.
Donc
roi
c'est
roi d'Espagne.
Donc mm-hmm. c'est ça le nom. Comme au Congo, on parlait de Léopoldville.
Ouais.
Ah oui,
ouais.
C'est ouais. une réalité. Mm-hmm. Ce qui fait que la tradition chrétienne aux Philippines, on a déjà célébré plus de 500 ans de l'Église catholique, mm-hmm. Parce que c'était à cause de cette influence. Et après l'Espagne, il y a eu des moments tumultué, là où le Japon aussi ouais. est allé pour quelques temps. Et ça n'a pas aussi marché avec les Japonais. Les Américains ont venu chasser les Japonais. Et ce sont les Américains qui furent les derniers mmh. à coloniser les Philippines jusqu'à à leur donner l'autre indépendance. Donc, ils en ont beaucoup.
C'est comme ça que l'anglais est la langue utilisée aux Philippines.
Voilà,
des États-Unis.
Exactement, c'est depuis lors que l'anglais est devenu la langue officielle.
Et si je ne me trompe pas, il y a encore une base militaire américaine.
Il y en avait beaucoup et à présent, il y a une grande qui est restée. Mm-hmm. Et ils gardent ça encore. Et ils commencent maintenant aussi à développer l'autre côté de Tuguegarao, là où... c'est pour protéger la mer, parce que il y a le conflit entre la Chine et les Philippines. Mmh. C'est séparé seulement par la mer. Et la Chine déclare cette mer comme territoire chinois. Mmh. Et les Philippines disent non, c'est notre territoire. Mmh. Alors, pour nouer des relations diplomatiques, les Philippines et les États-Unis, on cherche maintenant comment mettre une base à côté de cette rive ou de côte.
Okay.
Pour faciliter à protéger la mer pour les mers à la mer pour les Philippines.
Oui. Merci. En effet, les Philippines partagent la mer avec la Chine, donc ils seraient des pays limitrophes, mais voilà, c'est plutôt au niveau de la mer qu'ils doivent avoir une frontière. Et c'est dans ce sens que la diplomatie américaine et une présence américaine est très importante dans ces territoires. qui est proche de la Chine.
Exactement, comme nous le savons, les Philippines, c'est l'ensemble des îles. Mm-hmm. C'est appelé l'archipel.
Archipel.
Parce que ça se trouve dans l'océan Pacifique. Mm-hmm. Et les pays limitrophes, comme vous l'avez cité, il y a la Chine, mm-hmm. il y a l'Indonésie, mm-hmm. il y a le Japon, le Taïwan et les autres. Donc, ce sont ces pays voisins, mais à travers, séparés par la mer.
Par la mer.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, il y a une influence américaine, mais l'influence espagnole est restée plus en termes de religion, c'est ça qu'on peut dire.
Bien sûr, non seulement en termes de religion, en termes de langue. Mm-hmm. Si vous prenez les langues aux Philippines, les langues nationales, mm-hmm. les Philippines ou les Tagalog, surtout les langues du Sud, vous allez voir l'influence espagnole est forte. Mm-hmm. Mm-hmm. Beaucoup de choses, comme les choses pour la table, mm-hmm. tout est dit en espagnol. Mm-hmm.
Basso.
Oui, basso, plato, cuchillo, cuchillo mm-hmm. et autres. Donc, tu vois que l'espagnol est encore là. Mm-hmm. Et ils ont adopté ça et ça fait déjà partie de leur culture, de leur langue. Et ils ne peuvent pas s'en passer.
Les Philippines, un pays à majorité chrétien, mais... Parmi les pays voisins, vous avez parlé de l'Indonésie, où il y a une forte influence musulmane. Est-ce que cela n'affecte pas le pays comme tel, les Philippines?
Ah oui, on a connu des moments de d'invasion, si on peut le dire, mm-hmm. des extrémistes musulmans qui entraient du côté là où ils se proches de l'Indonésie, parce qu'il suffit seulement de prendre une grosse pirogue et traverser et y arriver. Et c'est de là qu'on a connu, si vous avez suivi les Abu Sayyaf, les terroristes qui sont entrés aux Philippines. Mm-hmm. Donc, ils venaient par ce canal-là. Mais le gouvernement fait un effort déjà pour limiter. Ce qui fait que cette partie qui est proche de l'Indonésie, cette partie est majoritairement musulmane.
Mm-hmm. Mindanao.
Mindanao, mais pas la totalité de Mindanao, mm-hmm. c'est une partie de Mindanao. Surtout quand vous allez à Basilan. Basilan, c'est une petite ville, île aussi, mm-hmm. qui est juste à côté. Et là-bas, 98% de la population sont musulmans. Mm-hmm. Et si vous allez aussi à d'autres villes voisines, vous allez trouver qu'ils sont majoritairement musulmans dans cette partie. Et c'est là l'influence des migrations, surtout ceux qui viennent de l'Indonésie, ceux qui viennent de la Malaisie et autres.
Tantôt, je faisais allusion à cet article publié par La Prospérité le 3 août 2023, où Didier Mbombo, représentant des Congolais aux Philippines, faisait donc part de ses soucis des Congolais qui voudraient avoir un consulat. Et dans cet article, Didier Mbombo déclare qu'il y a des centaines de Congolais aux Philippines. C'est cela.
C'est vrai. Et je vous dis, même maintenant, le nombre ne fait qu'augmenter. Mm-hmm. Il ne se passe pas deux semaines qu'on n'ait pas un nouveau Congolais arrivé aux Philippines. Et il y a aussi la migration qui s'est faite, mm-hmm. qui vient de les Congolais qui vivent en Afrique du Sud, mm-hmm. et les Congolais qui vivent ou qui vivaient en Inde. Okay. Maintenant, comme ils parlent déjà l'anglais, mm-hmm. ils trouvent que c'est mieux de travailler là-bas. Et je pense que les conditions aussi sont propices pour eux. Ce qui fait que s'il y a cette immigration, nombreux font les transferts et ils partent aux Philippines. Donc, ce que Didier a publié, je vous confirme aujourd'hui que on a des centaines de Congolais. Mm-hmm. Et le nombre ne fait qu'augmenter. C'est un souci majeur pour nous qui vivons là-bas, que le gouvernement nous écoute. Mm-hmm. Parce que nous sommes comme des brebis sans pasteur. Nous sommes perdus. Et comme je vous ai dit, le cas de passeport, nous ne savons pas où aller. Mm-hmm. C'est comme ça que je devais payer environ 2 000 $ pour renouveler le passeport qui coûtait 75 ou 75 $. Donc, le transport est trop cher que le besoin.
Parmi ces nombreux Congolais vivant aux Philippines, il y a près d'une dizaine de scotistes. Vous êtes combien précisément les Congolais?
Oui, parmi les Congolais vivant aux Philippines, une dizaine, bien qu'on ne fait que ce serait le nombre, mais nous sommes toujours Cette dizaine, 12, on peut dire, sont des prêtres avec les stagiaires. Mais nous avons aussi des Congolais, CISM, scoutistes, étudiants, qui sont dans la maison de formation à Manila.
Étudiants en théologie.
Étudiants en théologie. Et si on donne seulement le nombre de Congolais, CISM, nous sommes une vingtaine.
Une vingtaine.
Ouais.
Et pour ceux qui sont affectés comme missionnaires, quel genre de travail faites-vous là, de façon générale?
Oui, la vie CISM aux Philippines ou la mission CISM aux Philippines a cette priorité majeure. Et parmi les priorités, beaucoup de Congolais travaillent dans la pastorale active, dans les paroisses, dans les CVB. Et c'est ce que majorité nous faisons. Certains sont affectés à l'école ou aux universités. Et autres aussi s'engagent dans le travail sectoriel pour aider les pauvres. Et il y a aussi d'autres Congolais qui sont engagés dans l'administration comme secrétaire provincial et puis professeur dans les écoles. En fait, comme j'ai dit, parmi les priorités CISM aux Philippines, nous, les Congolais, nous sommes plus dans la pastorale, les paroisses, dans les écoles et puis nous sommes dans l'administration.
Parmi ces scoutistes congolais missionnaires aux Philippines, il y a un certain Louis Voidi, qui est liturgiste et musicien. Il chante souvent avec des Philippins, en Lingala même, en Kikongo, en français. Je vous propose Banaya Congo Tolingana.
Batatuni bamamu tunanga nai Bangwashina monoe, beto wizana, batata ba mamae, topesana maboko, poto tonga e kolona bisoe, Congo, poto bongisa mabelena bisoe, Congo. Bangwa shina mono Batatuni ba mamue Doyo kana Dosi mana Ye, 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 ye Linga Congo eh Bafumu ya bwala eh Toza la bomoko eh Basali ya njambe Totika koswana Basali ya nkolo eh Tobatela bampate Boto tonga e kolona biso eh Congo Boto bongisa mabele na biso e Congo e Bapangi na mono Ande kona biso we Kaya bangkoko babiso Congo Yonde mama wabiso banso Mama wabana tukumi bale na motoba Tia buanya Pe mayele omitema mabana bayo Bote balingana Pe bazala na bomboko E bale bonena ya Congo E peto la mitema mabiso banso nye Pe esindi sabo kabwani Koyinana Bitumba mpeko bomana Mokolo ndele Olata elamba ya sika ya bonsomi
Et c'était donc Banaya Congo Tolingana du père Louis Voidi, scotiste congolais missionnaire aux Philippines. Vous pouvez suivre cette chanson sur sa chaîne YouTube Louis Voidi en deux mots. Père Emery, parmi les secteurs d'apostolat de CICM aux Philippines, il y a aussi l'enseignement. Dites-nous quelque chose là-dessus.
Oui, l'enseignement, c'est un des secteurs majeurs de l'apostolat CICM aux Philippines. Il fallait former l'élite. Et comme pionnier, comme une congrégation qui travaille pour l'élite locale, la CICM s'est c'est donner corps et âme à la formation des nouveaux cadres. Ce qui fait que dans l'ensemble, nous avons 5 universités, si on peut ajouter notre école de théologie, ça fait 6. Donc, on a 6 grandes écoles CICM, l'institution d'enseignement.
École et université.
École et université, oui, dans l'ensemble. Mm-hmm. Pour but de former les jeunes. Mm-hmm. Et ça fait qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent de différents coins, non seulement aux Philippines, ils viennent de partout, du monde, partout, et puis ils s'étudient dans nos universités, dans nos écoles.
Et parmi les œuvres éducatives de CICM aux Philippines, il y a l'université Saint-Louis dans la cité de Baguio au nord. Et vous en êtes le vice-recteur chargé de l'identité missionnaire. En quoi consiste votre travail?
L'université Saint-Louis, c'est une œuvre missionnaire qui a commencé comme une aventure. Quand les missionnaires arrivaient en 1907, dans cette région de Cordillera, au nord des Philippines, c'est une grande montagne, de vaste, je peux parler de chaînes de montagnes, et ils n'étaient pas évangélisés. Ce qui était étonnant, bien que l'évangile était arrivé avec des Espagnols, les Augustins et les autres, beaucoup d'années avant, mais cette partie n'a pas été évangélisée.
Cordillère.
Et ça a été confié aux scoutistes. Voilà pourquoi nous étions partis là-bas. Et alors, en arrivant là-bas en 1907, les 7 pionniers belges qui arrivaient devaient former les servants de messe, devaient former les chanteurs, devaient former les lecteurs, les catéchistes et autres, les amis, les compagnons de la mission. Alors, ils ont commencé une aventure de sélectionner quelques jeunes et de leur donner seulement une formation de base de savoir lire et savoir écrire. Et c'était ça l'objectif. Le but est de former les gens qui servent l'Église. Alors, voyant que les besoins missionnaires étaient majeurs, ils ont sélectionné le plus jeune d'entre eux, le révérend père Séraphin de WC. On l'a laissé dans cette cité de Baguio pour but de former des enfants de cœur pour nous. Et eux, maintenant, là où ils étaient dans leurs différentes missions, ils envoyaient les jeunes chez le père Séraphin. Et c'est en 1911 que le père Séraphin voit que le nombre ne fait qu'augmenter. Et pourquoi pas en faire une école primaire?
Voilà.
Selon l'histoire, avec 8 étudiants. Et ils commencent, et des 8, progressivement, c'est devenu, mais aujourd'hui, nous avons plus de 30 000 étudiants.
30 000 étudiants à l'université Saint-Louis à Baguio. Une université qui appartient aux missionnaires CICM.
Géré par CICM du début jusqu'à présent. Et dans l'université maintenant, nous avons 4 valeurs majeures qui régissent notre éducation là-bas. Parmi les valeurs, nous avons la formation chrétienne. Donc, l'identité chrétienne, c'est tout premier. Il y a la compétence. Nous insistons sur la compétence ou l'excellence. Il y a l'innovation et puis il y a la compassion. La compassion, c'est attaché à la société pour pratiquer, pour aider aussi la société. Voilà les 4 valeurs majeures qui font de nous une université catholique. Et comme vous l'avez suivi, la toute première valeur, c'est l'identité chrétienne, la formation chrétienne. Et mon travail, c'est de m'en occuper. Je m'occupe de toutes valeurs, de l'identité chrétienne et de la compassion. Donc, de la première et de la dernière. Et parlons de la première valeur pour moi. Comme vice-recteur, là-bas ils disent vice-président, comme vice-recteur chargé de la mission et de l'identité, il s'agit de l'identité catholique et de la mission CICM. Donc, dans toute activité, dans tout ce qu'ils font, que ce soit le contenu du cours, je dois veiller à ce qu'il y a l'identité catholique, que c'est enseigné d'une manière catholique.
Ça doit être conforme
à la doctrine catholique. Et je dois aussi veiller qu'ils forment les missionnaires à l'esprit CICM. Donc, le charisme CICM, la spiritualité CICM est enseignée. Et c'est ce qui fait que je dois veiller pour que tout le monde reçoive cette formation du début, en commençant par l'école maternelle jusqu'à après la licence. Donc, ce qui fait que la religion chez nous est oui. enseigné dès l'école maternelle oui. à en licence. Oui, et la vie CICM, la vie scoutiste, est enseignée dès l'école maternelle jusqu'en licence. Donc, chaque semestre, tu as un cours qui parle de la CICM.
Jusqu'en master.
Jusqu'en master. Ah oui, voilà, le terme est propre. Merci. Donc, tu as un cours qui parle de l'église et tu as un cours qui parle aussi de la CICM. Mm-hmm. Et nous le faisons. Et parlant aussi de la quatrième valeur, il s'agit de la compassion. Mm-hmm. Donc, c'est une orientation vers la société. Alors, mon travail est de veiller que, après avoir reçu toute la formation académique, l'enfant doit nous montrer un exemple de ce qu'il a appris pour qu'il reçoive son diplôme. Donc, avant de donner un diplôme à un étudiant, il doit nous montrer qu'il a pratiqué ce qu'il a appris.
Et que la société en a profité.
Exactement, et que la société en profite. Et mon travail, exactement, est de sélectionner les coins les plus reculés, mm-hmm. qui n'ont pas de conditions appropriées. Et à ce moment-là, maintenant, je vais dire, OK, pour vous, votre promotion, voici tel village qui s'ouvre. Mm-hmm. Et on adopte ces villages qui deviennent notre extension. Mm-hmm. Et maintenant, eux, ils vont aller faire leurs devoirs là-bas.
Un exemple d'un devoir que des étudiants ont fait ou sont en train de faire dans un point reculé.
Exactement. La construction de la route.
Fait par des étudiants.
Fait par les étudiants. Ceux qui s'apprennent à mettre des courants mm-hmm. sur la route, ouais, sur les routes. Ouais, ouais. Et à l'hôpital, comme nous avons aussi les cliniques universitaires,
ouais.
et ils doivent aussi aller. On crée un centre de santé mmh. là-bas ou un poste de santé. Mmh. Et ce sont nos étudiants qui vont aller là-bas pour leurs pratiques. Et
fantastique,
donc, ça. Avant de finir, la communauté en question doit certifier qu'ils ont fait un bon travail. Et nos professeurs vont aller maintenant vérifier. Si tu as mélangé, tu n'as pas bien mélangé le ciment, ils vont tester. Mmh. Avec les machines et tout ça, s'ils voient que ce n'est pas bien mélangé, tu échoues. Mmh. Bien que tu as réussi des points de vue académiques, mmh. tu as un niveau. Mais si tu n'as pas mis ça en pratique, mm-hmm. on ne te donne pas un diplôme. Mm-hmm. Alors, imaginez comme on a beaucoup d'étudiants, ça veut dire que beaucoup de communautés en profitent. Et c'est ça mon travail. Comme pour ce semestre, j'ai déjà 18 communautés où nos étudiants doivent aller faire leurs pratiques.
Wow. C'est vraiment une bonne façon de faire les choses. C'est-à-dire que une université CICM, plus de 30 000 étudiants, mais l'idée derrière, c'est pas de faire du business, de faire de l'argent, mais c'est vraiment d'éduquer les étudiants à des valeurs qui pourront faire tenir la société et vous les amener jusqu'à la pratique et réaliser des missions dont la société doit profiter.
Et si je peux en profiter aussi pour dire que ils s'appellent eux-mêmes missionnaires. Mm-hmm. Oui, donc l'éducation que nous donnons, nous parlons que nous formons des missionnaires. On ne forme pas seulement des cadres. On forme des missionnaires qui partent en mission. Et à la fin de chaque, quand on fait la collation, nous avons la messe d'envoi en mission. Mm-hmm. Et ils sont envoyés pour nous représenter valablement. Et ils s'appellent eux-mêmes, hein, nous sommes des CICM. Nous mm-hmm. sommes des missionnaires CICM parce qu'ils ont reçu cette éducation. Et c'est ça ce qui fait notre fierté aussi. Et si vous voyez aussi dans la mentalité, nos jeunes, avant de prier, il se frappe la poitrine en disant « Cor unum et anima una ». Donc, celui qui va diriger la prière va dire « Cor unum » et tout le monde répond « Et anima una ». Et
puis, il met
« Et une seule âme ».
Une
et
puis, seule âme qui est la devise de la congrégation.
La congrégation. Et ils ont adopté ça. Mm-hmm. Et ça fait la joie que de voir que il fait ça spontanément. Mm-hmm. C'est devenu partie de leur vie. Et mm-hmm. c'est ce qui fait notre fierté déjà que c'est déjà une évangélisation pour nous en pratique.
Père Emery, à part votre responsabilité de vice-recteur, vous êtes aussi le curé de la paroisse universitaire. Décrivez-nous un peu l'ambiance dans cette paroisse.
Ce sont des missions connectées. Mm-hmm. Oui, comme vice-président chargé des missions de l'identité catholique ou d'identité chrétienne, et je suis aussi pasteur, mm-hmm. le curé de la paroisse universitaire, c'est géré comme toute paroisse. Mm-hmm. Et là, mon autorité directe, c'est l'évêque diocésain. Le but est de donner l'aspect spirituel et religieux à tout le monde. Mm-hmm. Parce que les professeurs, les étudiants, ils quittent leur famille, ils quittent leur maison, ils sont chez nous toute la journée, du matin au soir. et ils n'ont pas allé ou aller prier. C'est comme ça que on a érigé cette paroisse universitaire. Donc ma population, ce sont mes étudiants et ce sont mes professeurs ou mes enseignants et tous ton employé, tous ceux qui sont employés à l'université, ce sont eux mes premiers paroissiens. Et dans l'ensemble, comme j'ai dit, vous voyez maintenant comment la charge est lourde, parce que si vous avez 30 000 étudiants, et nous avons pratiquement 2 200 employés, donc ça fait que j'ai 33 000 paroissiens. Ouais. Et comment maintenant servir ces 33 000 paroissiens? Je donne un exemple, comme le mercredi de cendre s'approche, c'est pour commencer le temps de le carême.
Ouais.
J'ai 9 messes.
Oh.
Oui, c'est 9 messes parce que imaginez 33 000 pour que tout le monde reçoive la cendre.
Ouais.
Je ne peux pas faire une seule messe. Tout le monde se considère comme membre d'une paroisse. Donc, tout celui qui est à l'école doit bénéficier des services de l'église. Pas qu'il est à l'école et puis il rentre dans la maison sans prier, non. Il doit aussi recevoir la vie spirituelle.
Père Emery, un dernier mot aux auditeurs et internautes qui nous suivent à travers la Radio Maria.
Je suis content de vous représenter valablement aux Philippines. Pas seulement pour ce que nous faisons, mais aussi partager notre foi. Et là-bas, ils aiment quand je célèbre la messe en chantant notre tradition d'ici. Ils se disent, oh, ça c'est une nouvelle touche. Mais c'est une tradition congolaise et ça fait de la joie. Et je suis content de partager l'expérience que j'ai vécue aux Philippines à mes frères congolais pour que dans l'ensemble, nous cherchions s'équiper et édifier l'Église. Le petit mot que j'ai à faire, notre président de l'université dit que Dieu se plaît dans l'excellence. Donc, tout ce que nous faisons, dans toute mission, la mission ne peut changer, la vie des hommes peut changer seulement si nous faisons du bien, si nous excellons en faisant le bien.
Dieu se plaît dans l'excellence. Père Emery, merci de nous avoir fait voyager dans ces pays d'Asie, les Philippines, un pays qui attire les Congolais. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une autre émission. On va approfondir cela pour savoir pourquoi un pays du tiers-monde attire tant de Congolais. Et merci de nous avoir fait partager cette expérience missionnaire exceptionnelle. Comme vous l'avez bien dit, vous nous représentez, vous partagez notre foi avec nos frères et sœurs philippins, philippines là-bas. Je rappelle que le père Emery Mwako est un scoutiste congolais, missionnaire aux Philippines, prêtre depuis 2017. Il occupe le poste de vice-recteur en charge de l'identité missionnaire de l'Université Saint-Louis et curé de la paroisse universitaire. Nous sommes dans la cité de Baguio au nord des Philippines. À vous, auditeurs de l'émission Loin des yeux, près du cœur, merci pour votre fidélité. Restez branchés sur la Radio Maria. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.
Loin des yeux, près du cœur.
Une émission des Congolais vivant à l'étranger.
Bonjour Bana Mama, bonjour Radio Maria. Moi c'est Maman Chantal Kamwanya. J'appelle du Canada, Ottawa, la capitale de la communauté catholique congolaise d'Ottawa-Gatineau.
Bonjour Maratio et shalom à tous les Bana Mama. Je suis bien Maman Valérie Nguélé de l'aumônerie catholique congolaise de Londres. Je voulais juste vous dire God bless Radio Maria.
Allô, bonjour. Mon nom c'est Joaquim Benza. J'habite en Espagne, précisément dans la ville de Bilbao. Vraiment, comme le dit le titre de l'émission, loin des yeux, près du cœur. Vraiment, on est vraiment près du cœur en écoutant la Radio Maria.
vous écoutez sur Radio Maria, laissez-nous votre message.
Une émission à suivre chaque dimanche sur Radio Maria.